Imaginons une PME techno basée à Montréal qui expédie pour 10 000 $ de composantes électroniques vraiment ultra spécialisées vers Vancouver.
Genre de contrat qui fait l'année d'une entreprise, tu sais.
Exactement. Le contrat de l'année. La boîte est minuscule, ça pèse à peine 2 kilos, mais en cours de route, il y a un incident dans un centre de tri, puis la boîte est complètement détruite.
Aïe! Le cauchemar classique.
En plein ça. Fait que le dirigeant de la PME appelle son transporteur, puis s'attend, ben, logiquement, à un remboursement de 10 000 $. Mais là, la réalité juridique le frappe de plein fouet. Selon les règles de base du transporteur, le dédommagement, ben, il est calculé au poids.
Ah, la fameuse responsabilité au poids.
Ouais. Fait qu'on lui offre genre 5 $ du kilo. Bilan de l'opération, pour une perte de 10 000 $, l'entreprise reçoit un beau petit chèque de 10 $.
C'est fou quand on y pense, mais ce scénario-là, ça n'a rien d'une fiction. C'est vraiment la mécanique quotidienne de l'industrie de la logistique.
C'est ce qui ressort des documents qu'on analyse aujourd'hui.
Absolument. Et ce vide monumental-là, entre la valeur réelle d'une marchandise, puisque le transporteur est légalement tenu de rembourser, bien, ça explique une statistique assez vertigineuse qu'on a trouvée dans nos sources.
Ouais, le chiffre m'a fait sursauter.
Les projections montrent que le marché mondial de l'assurance du transport de marchandises, ça va atteindre les 59 milliards de dollars américains en 2025.
59 milliards, c'est pas juste de la petite monnaie, là. Ça démontre que c'est plus juste une petite option administrative qu'on coche par habitude.
Non, c'est rendu une véritable infrastructure financière. C'est un coût commercial non négociable pour une immense partie de l'industrie.
Et c'est en plein la mission de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer ces documents-là pour comprendre pourquoi cet outil-là, qui est souvent relégué au département de comptabilité, c'est en fait le pilier qui protège les marges de profit.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'ironie des habitudes corporatives. Tu sais, les entreprises vont dépenser des fortunes pour leur cybersécurité ou pour assurer leur bâtisse contre le feu.
Ah, c'est clair. Les polices de responsabilité civile sont blindées.
Exact. Mais la marchandise en transit, qui est littéralement leur inventaire monétisable, ben, elle est laissée super vulnérable à la seconde où elle franchit la porte du garage.
Fait que, OK, décortiquons tout ça. Si ce marché-là vaut 59 milliards, c'est parce qu'il y a un fossé immense entre ce que les gens pensent qui est couvert puis la réalité.
Il y a une confusion totale dans l'industrie entre la responsabilité du transporteur, ce qu'on appelle le « carrier liability », puis une vraie couverture d'assurance.
C'est un peu comme, mettons, qu'on s'achète un téléphone à 2000 $ puis qu'on met un petit étui en plastique transparent à 1 $ du dépanneur. Puis là, on espère que ça va le sauver d'une chute du 10e étage.
C'est une excellente analogie. Les sources sont super claires là-dessus, là. La responsabilité du transporteur, ça n'a jamais été conçu pour agir comme une police d'assurance pour l'expéditeur.
Attends, donc ça protège qui d'abord?
Bien, ça protège le transporteur. C'est un bouclier juridique pour eux pour limiter leur exposition financière s'il y a un désastre. C'est pas un filet de sécurité pour le client.
Fait que le calcul au poids qu'on mentionnait tantôt, ça vient de là.
En plein ça. Les taux sont fixés par des conventions. C'est lié au poids ou à la classe de fret, mais ça se fout complètement de la valeur de ce qu'il y a dans la boîte.
Donc, le document d'expédition agit juste comme un plafond maximum sur ce qu'on peut récupérer.
Exactement. Et le pire, c'est le fardeau de la preuve.
Ah oui, c'est pas automatique, ça. Le transporteur fait pas juste envoyer un chèque si la boîte arrive pas.
Ben non, c'est là que ça se corse. Pour avoir ne serait-ce que ce petit montant calculé au poids, il faut prouver, hors de tout doute, que la perte est causée par une négligence directe du transporteur.
Ouf, bonne chance avec ça.
Surtout qu'ils ont plein d'échappatoires légales. Les cas de force majeure, genre les actes de Dieu, la météo extrême, où ils vont juste dire l'emballage d'origine n'était pas adéquat.
C'est là que ça devient vraiment intéressant avec l'assurance tierce dont parlent nos documents.
Oui, parce que l'assurance par un tiers... ça vient complètement court-circuiter ce débat juridique-là.
Ça couvre la valeur déclarée, point final.
Exact. On déplace le risque de la PME vers un assureur dont c'est littéralement la job de gérer ce risque-là. Si ça brise pendant la couverture, l'assureur paie la vraie valeur.
Puis après, si l'assureur veut s'obstiner en cours avec le transporteur, ben c'est son problème à lui.
C'est en plein ça. L'entreprise récupère son argent, puis elle continue de rouler.
Ce qui nous amène à l'effet domino, parce que nos sources insistent beaucoup sur les dommages collatéraux, l'impact sur l'image de marque.
C'est majeur.
On comprend bien le drame pour une boutique en ligne qui doit rembourser un client fâché, mais si on regarde le facteur B2B, l'interentreprise, les pros de la logistique sont habitués au bris, non? Est-ce qu'une palette brisée peut vraiment détruire une relation d'affaires?
Si on regarde la situation dans son ensemble, la tolérance aux erreurs en B2B a complètement fondu, surtout avec le juste à temps.
Non, c'est vrai, les inventaires sont réduits au minimum.
Exact. Prenons l'exemple des chargements partiels, le LTL. La palette, elle va pas en ligne droite de A à B. Elle passe par plein de centres de tri.
Elle est déchargée, rechargée, manipulée par 10 chariots élévateurs différents.
Fait que le risque physique augmente, mais surtout, la traçabilité de la faute devient possible.
C'est le brouillard total. Si la palette arrive écrasée chez le client, on ne sait pas si c'est le chauffeur ou le terminal de départ.
Puis pendant que le fournisseur s'obstine au téléphone avec le transporteur, le client, lui, sa chaîne de montage est bloquée.
Aïe, ça coûte cher.
C'est le coût invisible. Une entreprise sans assurance va hésiter avant de renvoyer une palette de 50 000 $ à ses frais. Elle va vouloir enquêter.
Puis ce délai-là, ça tue la confiance du client.
Ternant, le client B2B s'en fout de tes problèmes de logistique. Il veut juste ses pièces.
Fait qu'avoir une assurance, ça devient un avantage concurrentiel direct. On perd pas une seconde, on relance la production, on expédie une nouvelle palette, puis on gère la paperasse assurance en arrière-plan.
Ça prouve que tu as un partenaire fiable. Un autre point fascinant soulevé par les textes, c'est la barrière à la croissance internationale.
Ah oui, l'expansion.
Tu sais, traverser les frontières, ça veut dire des douanes, des bateaux, des transporteurs locaux. Ça multiplie les juridictions.
Juste l'idée de perdre un conteneur complet dans un port étranger, ça doit paralyser bien des dirigeants.
Complètement. L'aversion au risque les empêche de grandir. L'assurance agit comme un catalyseur. Ça donne la confiance nécessaire pour attaquer de nouveaux marchés sans avoir peur de faire faillite à la moindre tempête.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire en pratique? Une PME ne peut pas se mettre à payer des assurances sur chaque petite boîte de vis qui sort de la bâtisse.
Non, c'est clair, ça mangerait tous les profits.
Comment on trouve le juste milieu? Les sources parlent d'une matrice de décision.
Cela soulève une question importante. Comment on choisit? Les documents donnent 4 critères super logiques. Le premier, c'est la valeur versus les liquidités.
Fait que, est-ce que je suis capable d'absorber la perte de ma poche sans fermer la compagnie?
Exactement. Si la perte d'un envoi te force à vider ta marge de crédit, tu dois l'assurer. Surtout pour les trucs de grande valeur.
OK, ça c'est le premier critère. Le deuxième?
Le volume d'expédition. Et c'est un peu contre-intuitif.
Ouais, on se dirait que les immenses multinationales ont besoin de plus d'assurance.
Ben, en fait, la loi des grands nombres fait qu'elle s'auto-assure. Une multinationale calcule un petit pourcentage de pertes dans ses prix, puis c'est réglé.
Mais pour une PME?
Pour une PME, perdre 3 grosses commandes dans le même mois parce qu'il y a eu de la malchance, ça détruit l'année fiscale au complet.
Wow, OK. Troisième critère?
Le risque lié à la route. Un trajet direct sur l'autoroute entre Montréal et Québec, c'est pas la même game qu'un envoi par bateau, train puis camion vers le Grand Nord.
Plus il y a de transferts, plus il y a de risques que ça casse.
C'est mathématique. Et finalement, le dernier critère, c'est la fragilité du produit.
Ouais. Envoyer des poids en fonte pour un gym, c'est moins stressant qu'expédier un serveur informatique plein de composantes fragiles.
Exact. Donc, tu prends ces 4 critères-là, puis ta décision devient juste une équation mathématique froide, sans émotion.
C'est beau en théorie, sur un bout tableau blanc, mais sur le plancher de l'entrepôt, si le gars doit remplir des formulaires en triple à choux pour chaque palette, ça marchera pas. La lourdeur administrative va tuer le processus.
C'était vrai avant, mais nos sources montrent qu'il y a une révolution technologique en cours. On passe d'un cauchemar de paperasse à une solution algorithmique intégrée.
Et ça m'amène à l'exemple de Freightcom, qui est détaillé dans les documents. C'est censé être aussi facile que d'ajouter un plugin sur un site web.
Oui, grâce aux API, les interfaces de programmation.
Comment ça enlève la friction concrètement?
La beauté de l'affaire, c'est que ça se fait en temps réel. Une plateforme comme Freightcom connecte les tarifs de transport puis les fournisseurs d'assurance en même temps. Mais selon nos sources, ce qu'il n'y a pas de frais d'installation ou d'abonnement mensuel pour la plateforme. Tu payes juste quand tu l'utilises.
Ça démocratise l'accès. Mais honnêtement, au-delà des coûts, c'est la tranquillité d'esprit qui vaut de l'or. La charge mentale de gérer une entreprise, c'est immense.
Dormir sur ses deux oreilles parce que tu sais qu'une simple ligne de code protège ta marchandise à sa pleine valeur, c'est inestimable.
Ça permet de se concentrer sur l'innovation au lieu de capoter sur une palette perdue en Arizona.
Exactement. L'assurance devient invisible. C'est juste une fonction de base de tes opérations quotidiennes.
Fait que, pour résumer tout ça, l'assurance d'expédition par un tiers, c'est vraiment plus un luxe. C'est un bouclier pour la stabilité financière, ça permet de grandir à l'international puis ça protège la marque.
C'est une excellente synthèse. Par contre, si on pousse la réflexion un peu plus loin, au-delà de ce que les textes disent explicitement...
J'adore quand on fait ça.
Vers quoi on s'en va? On voit que les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fragmentées, les changements climatiques créent des tempêtes énormes, il y a des tensions géopolitiques partout.
Le risque n'a jamais été aussi élevé.
Fait qu'on peut se poser la question, est-ce que dans un avenir très proche, l'assurance d'expédition par des tiers va passer d'une simple bonne idée corporative à une stricte obligation légale?
Oh, comme une condition pour faire du commerce international?
Imagine, les douanes ou les ports pourraient exiger une preuve d'assurance exhaustive juste pour laisser passer ta marchandise parce que le réseau global est rendu trop vulnérable.
Un genre de passeport logistique obligatoire?
C'est ça. Le droit de participer au commerce mondial pourrait dépendre de ce bouclier financier-là.
Une excellente réflexion pour terminer ça d'une façon qui bouscule un peu les conventions. C'est un sujet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.